Bonjour, je suis Ophélie Arras du Préhistocide de Brassimpouille. Aujourd'hui, nous allons parler de préhistoire dans Chronique préhistorique. Rubrique Alto Cliché. Alors aujourd'hui, dans Alto Cliché, nous allons parler de la musique à la préhistoire. Et nous avons de nombreux clichés sur nos ancêtres. Était-il déjà capable d'émettre des sons, de chanter, de faire de la musique? Alors déjà, était-il assez intelligent pour faire de la musique? Bien sûr que oui, les hommes et les femmes du Paléolithique supérieur étaient comme nous, donc aussi intelligents. Pouvait-il émettre des sons? Bien entendu, les hommes préhistoriques n'émettaient pas de simples grognements et des cris désarticulés. Nous savons grâce aux vestiges archéologiques qu'au moment où les hominidés ont commencé à devenir bipèdes, ils ont aussi commencé à parler. Était-il donc capable de chanter? On ne peut pas parler de musique sans évoquer les chants. Et bien sûr, nous n'avons pas d'enregistrement de l'époque, mais quelques gravures représentent des personnages à la bouche ouverte et des marques évoquant un souffle ou un son sortant de leur bouche, comme dans la grotte du Cabillou en Dordogne. Il faut souligner que tous les peuples du monde chantent, avec des rythmes et des tonalités différentes qui peuvent étonner parfois quand on les entend, mais s'il y a une chose qui est certaine, c'est que la musique est universelle et elle nous vient de loin. D'ailleurs, dans toutes les cultures humaines, des plus reculés dans le temps et dans l'espace, même dans notre folklore local, les chants sont souvent liés à des histoires, à des légendes ou même à des actions. Il faut aussi bien sûr parler du contexte un peu particulier, des grottes, ces cathédrales souterraines dans lesquelles les sons se réverbèrent de manière si particulière, mystique et fantastique. Pensons notamment à la grotte de Niau en Ariège avec son célèbre salon noir, une salle immense dans laquelle le son résonne durant plusieurs secondes et dans laquelle on a de super peintures d'animaux, mais en plus, nos ancêtres ont marqué des points d'ocre à des endroits très particuliers. Et ces points n'ont pas été faits au hasard. Les recherches ont prouvé qu'ils avaient été réalisés sur des points de résonance particuliers. Au Pays Basque, dans la grotte d'Isturitz, les stalagmites et les concrétions ont été frappées et même marquées à l'ocre. Et les chercheurs ont aussi essayé, ils ont voulu savoir. Ils ont également testé ces stalagmites et ça a donné un résultat époustouflant avec un son magnifique. Et oui, les grottes étaient aussi utilisées pour leur son. Mais étaient-ils aussi capables de fabriquer des instruments? Quand on s'imagine nos ancêtres faire de la musique, on les imagine frappant grossièrement des bouts de bois avec des os et s'étonnant du son émis par ces derniers. Alors bien sûr que nous ne connaissons pas la musique de nos ancêtres, mais il y a fort à parier qu'elle était plus évoluée que ça, plus structurée. Nous avons des traces de percussions retrouvées sur des crânes de mammouth en Ukraine, des os fracturés qui semblent avoir servi de clave, sans certitude bien évidemment. Et effectivement, quand on réfléchit un peu, on peut faire de la musique avec presque rien. Deux morceaux de bois frappés en rythme suffisent. Pensons par exemple au tchalaparta basque, un instrument à percussion qui paraît simple, mais dont l'utilisation est complexe et élaborée. Alors nos ancêtres étaient-ils capables de réaliser des instruments complexes équivalents à ceux d'aujourd'hui? Oui, et l'archéologie le prouve. Bien que les matières périssables manquent à l'appel, effectivement, s'ils avaient des instruments en bois, à cordes, à vent, en cuir, ils n'ont pas laissé de traces. Toutefois, nous connaissons des instruments travaillés, comme des flûtes en os, ou même en ivoire de mammouth. Nous avons d'ailleurs un très bel exemple pas très loin, chez nos voisins du Pays Basque, toujours dans la grotte d'Isturitz, on a découvert plus d'une dizaine de flûtes en os de rapaces âgées de plus de 35 000 ans. Autre instrument élaboré, c'est le rhombe. Alors le rhombe, ça ressemble en gros à une mini planche de surf d'une vingtaine de centimètres, percée à une extrémité, on passe une ficelle dans le trou et on fait tourner l'ensemble. Cet instrument existe encore chez les aborigènes, et ici aussi, les bergers l'utilisaient encore au siècle dernier pour éloigner les loups. Il produit un son assez étrange pour nous, ressemblant plutôt à un bruit de moteur. Un son qui, bien sûr, était inconnu pour nos ancêtres. Chez les aborigènes, il évoque plutôt le bruit du vent ou la voix des ancêtres et des esprits.
Commencement était, l'univers était, Uluru était, le bush était, Ososungabe, Bikokombi Sebingabe, Uluru Angabe, et Pandabnangabe. anciens étaient, les anciens vivaient, les anciens croyaient, la vie c'était. Botarbengabe, Botarbengabe Ningi, Botarbengabe Kanga, et Nindam Ningabe. On veut donner, on veut partager, on veut vivre, on veut être. Bité inébivé, bité inébikaba, bité inébining, bité inébiborbo.
Vous êtes bien dans l'émission Chronique préhistorique avec Ophélie Arras. Rubrique Lumière sur nos ancêtres. Lumière sur nos ancêtres. Alors, qu'entendons-nous précisément par musique ? D'après le dictionnaire, c'est la capacité intuitive de l'homme à combiner des sons de façon mélodique, rythmique et harmonique. Concernant la musique des premiers hommes, seule l'archéologie peut nous éclairer, mais elle a ses limites bien sûr. Tout de même, elle nous apporte de nombreuses informations. Les plus anciens instruments connus sont des sifflets en os. Plus précisément des phalanges de rennes, d'aurochs ou de bisons. On a utilisé la première ou la deuxième phalange que l'on a percée en son centre, on enlève la moelle et on souffle à l'horizontale, comme sur une flûte de pan. Et ça donne un son ressemblant à ça. On pense que l'idée est venue par des marques de prédation sur les ossements de rennes et que les préhistoriques ont simplement cherché à reproduire. Plus élaboré encore, parmi les instruments avant, nous avons les fameuses flûtes, que l'on retrouve durant tout le paléolithique supérieur dans toute l'Europe. On réalisait ces flûtes dans des os de grands oiseaux, comme les rapaces ou les cygnes, mais on choisissait un os spécifique, c'est l'ulna. C'est un os qui est à la base de l'aile, ce qui permet d'avoir un tube régulier, ni trop fin ni trop épais, dépourvu de moelle, donc un tube parfait. On perçait plusieurs trous, pas n'importe comment non plus, chaque trou émettant un son précis et clair. Le nombre de perforations est variable. Une exception est à noter quand même en Allemagne, où on a découvert une flûte en ivoire de mammouth. Toutes ces flûtes possédaient certainement une sorte de bec ou de hanche hein, en matière périssable, qui a disparu aujourd'hui, et certaines pouvaient s'utiliser telles quelles, avec juste l'arête saillante hein, qui permet de trancher l'air et d'émettre un son un peu comme sur le biseau d'une flûte à bec. Écoutons un peu à quoi ressemble le son d'une flûte en os. Autre instrument avant utilisé par nos ancêtres, ce sont les cors ou les trompes. Alors malheureusement, les cornes d'animaux ne se conservent pas dans le temps. Aussi, les seuls que nous connaissons sont de gros coquillages, des conques cassées ou sciées au niveau de la pointe, qui émettaient un son assez puissant, comme celui-ci. Et pour finir avec les instruments avant, revenons sur le rhombe évoqué tout à l'heure. Cet instrument au son particulier, nous en connaissons plusieurs exemples en Europe et chez nous, c'est plutôt en Dordogne qu'on en a découvert. Il était réalisé dans des os de rennes ou de l'ivoire de mammouth, essentiellement, et produit un vrombissement assez étrange. Je vous laisse juger. Autre instrument retrouvé, ce sont les racleurs. Alors, c'est un instrument allongé, en os ou en bois de cervidés, avec des entailles à section régulière sur une arête ou deux. Vous en connaissez sûrement. Hein. Aujourd'hui, on les retrouve sous la forme de grenouilles en bois que l'on gratte avec un petit bâton. On en trouve sur les marchés ou à l'école aussi. Les enfants souvent le connaissent. Il existe un bas-relief provenant de la grotte de l'Ocel, la fameuse Vénus à la corne, qui tient dans sa main un objet qui ressemble à une corne à 13 grosses stries à écart régulier. Cet instrument devait être utilisé sûrement avec d'autres instruments. Comme c'est le cas dans la musique latine, hein, il produit un son plutôt discret, comme celui-ci. Et le dernier élément, alors, dont là nous n'avons pas vraiment de preuves archéologiques, mais qui pose quand même beaucoup de questions, ce sont ce qu'on appelle les lithophones. Alors on connaît le xylophone, xylo venant de bois, phone le son. Le lithophone, c'est litho, lithos, pierre, phone, son. Les lithophones sont des instruments en pierre, des lames de silex sur lesquelles on va frapper, et le silex, c'est un peu comme du verre naturel, donc ça va donner un son assez clair. Et on pense que le silex était utilisé pour ça, parce qu'on a retrouvé, notamment à Étiole, des longues lames de silex qui avaient des traces de percussion. Mais bien sûr, ça c'est beaucoup plus difficile à prouver au niveau de l'archéologie. Je vais quand même vous faire écouter à quoi ressemblerait le son d'un lithophone. Alors j'espère qu'avec toutes ces informations, vous allez avoir un nouveau regard sur la musique que pouvaient jouer nos ancêtres. Je vous laisse imaginer à quoi elle pouvait ressembler. Et je tiens à remercier Mathieu Lacoste qui m'a aidé pour préparer cette émission.